30 septembre 1996, cours de Raveman sur Shir HaShirim, sous la soukha du centre du Frénois, à Paris.
C'est ça. Inach yafa rayati, inach yafa enayich yonim. Alors si on veut traduire littéralement, inach yafa, inach, te voici, yafa, belle, inach yafa, de nouveau, te voici, belle, enayich, tes yeux, yonim, on va dire, comparé à la colombe. Yona, ce sont comme des colombes. Yona, en hébreu, c'est la colombe. Alors, Rashi dit que ici, c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël. C'était la réponse de ce qu'on a vu plus haut. Que le peuple d'Israël s'adressait à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu lui répond, Inach Yafa, tu es belle deux fois, il faut voir pourquoi deux fois. Enaïr, pourquoi les yeux. Yonim, et pourquoi la colombe. Donc finalement on a trois problèmes. Inach Yafa, quelqu'un est beau. Tu dis une fois il est beau, ça suffit. Si tu dis Enaïr, tes yeux, c'est qu'il existe quelque chose de spécial dans les yeux. Et pourquoi Yonim, pourquoi parle-t-on des colombes ici? On va commencer par le commencement. Le Midrash pose cette question-là. Inach Yafa, Inach Yafa. Pourquoi l'avoir dit deux fois? Dit le Midrash, Inach Yafa. Bamitzot, Inach Yafa, Bigmilut Rasadim. Premièrement, Inach Yafa, le peuple juif se distingue, Yafé, par l'accomplissement de la mitzvah. Inach Yafa, le deuxième, c'est Gmilut Rasadim, c'est-à-dire les relations qui existent entre l'homme et son prochain. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'attitudes et deux types de systèmes qui existent dans l'homme. Un qui est le système de la mitzvah, et un qui est le système ben adam l'achavero, c'est-à-dire la façon dont il aborde le prochain. Deuxième pshat dit le Midrash, Inach Yafa be mitzvat ase, Inach Yafa be mitzvat lota ase. Le premier Inach Yafa, il s'agit des mitzvot ase, mitzvot positives, le shofar, le lulav, la soukha. Le deuxième Inach Yafé, mitzvot négative. Shabbat, la kashrut. Là aussi, on va voir qu'il y a deux systèmes. Le système de la mitzvah positive, il faut faire quelque chose. Le système de la mitzvah négative, il ne faut pas faire. Là, on va l'appeler le kum va'aseh. Motamo kum va'aseh dans le langage de Chachamim, ça veut dire lève-toi et fais. Et l'autre s'appelle Chev Vealtaase. Chev, reste où tu es et ne fais pas. C'est-à-dire que l'homme doit se mesurer à ces deux systèmes-là. Quelquefois il faut faire, et quelquefois justement il ne faut pas faire. Et Naïr Yonim, il demande au Midrash c'est quoi? Il dit tiens, qu'à regarder dans la Torah, où est-ce qu'on trouve le mot Aïn? Tout le monde sait qu'il y a marqué Ve'im me'eime ha'eda. Eine Aeda, les yeux du peuple. Qui sont les yeux du peuple? La Torah, elle parle du Sanhedrin des Chachamim. Enaïr Yonim, Yona, tout le monde sait que la colombe a quelque chose de spécial parmi tous les animaux. C'est que elle vit en couple. C'est-à-dire que la femelle colombe n'est jamais trompée par son mari, ou le contraire. Ça, c'est ce qu'il y a de spécial de la Yonah. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah est marquée Vim Tor Omine Yonah, demande la Gemara dans le traité de Menachot, pourquoi juste lorsqu'on amène un sacrifice et que sacrifice est un oiseau, on parle de Meyonah? Il dit parce que Ben Yonah, c'est celui qui est fidèle. Enaïch Yonim, ça voudrait donc dire ceux qui te guident, Yonim sont fidèles. On va essayer de voir quel est le rapport avec la mitzvah Tassé et la mitzvah Lo Tassé, et quel est le rapport avec les mitzvot et le Gmirut Hasadi. Donc encore une fois, le pshat dans le verset. Inach Yafa, Inach Yafa. Deux fois, une il s'agit des mitzvot, une il s'agit du Gmirut Hasadi. Une fois il s'agit du mitzvot Tassé, une fois il s'agit du mitzvot Lo Tassé, négatif. Enaïch Yonim. Rayati, on n'a pas traduit. Le mot Rayati, on le trouve dans tout le Shir HaShirim. Ra'aya, c'est le féminin de Réa. Quand on dit Vavta, le Réacha. Normalement, on traduit Rayati, ma compagne. Je crois qu'on a déjà expliqué d'où vient le mot Réacha, Réa. Qu'est-ce que ça veut dire Réa? Pourquoi le prochain s'appelle Réa? Vavta, le Réacha, Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le prochain s'appelle Réa? On doit le savoir. Non? Parce qu'on a dit que ça vient du mot Ra. Le mot Ra, qu'est-ce qu'il veut dire? Couper. Couper du but. Lorsque quelque chose est coupé de sa finalité, ça s'appelle Ra, le mal. C'est-à-dire qu'en hébreu, le mal, ça n'est pas l'ennemi du bien, ou le contraire du bien, l'opposé du bien. Le mal, c'est tout ce qui a été créé, qui est exprimé, qui peut être exprimé, qui ne va pas dans le sens où ça doit aller. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ra. Ra'ayati, c'est le féminin. Ra'ayati, ça veut dire hein, ma compagne. Pourquoi le peuple juif est appelé ma compagne par rapport à Kadosh Baruch Hu? Il est écrit ici dans le Midrash que la fidélité du clan Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu, elle est comparée à la fidélité d'un conjoint par rapport à l'autre. Ça veut dire que lorsque Dieu dit Ra'ayati, ça veut dire qu'il exprime la fidélité du peuple d'Israël vis-à-vis de lui. Bon. Après, on expliquera encore comment le mot Réa peut s'appliquer à Kadosh Baruch Hu. Va'avta le Réa Hakamocha. On va voir qu'il y a un Rashi dans le traité de Shabbat qui dit que Va'avta le Réa Hakamocha, en vérité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne parle pas seulement de l'homme, mais on parle aussi d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Hillel a dit à celui qui voulait se convertir de me sanalach, le Réacha l'Otahavit, ce que tu ne veux pas, ne le fais pas à l'autre. Il a dit que c'était la quintessence de la Torah. Rachid demande, en vérité, ça n'a rien à voir. N'importe qui peut avoir d'estime pour son prochain, et ça n'a rien à voir avec la Torah. D'ici, parce que il est possible d'avoir un rapport de Réa avec ton prochain, seulement si vous considérez Réa par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il amène le verset. Réacha v'réa avira altazov. Ça veut dire qu'il y a un rapport de réout vis-à-vis d'Akadosh Baruch. On devra déterminer comment je peux moi avoir un rapport de réout vis-à-vis d'Akadosh Baruch. On va commencer par le plus simple. Inach yafa, inach yafa. La mitzvah asé ou la mitzvah lota asé, la mitzvah et le gnut asé. On va commencer par la mitzvah asé, la mitzvah lota asé. Vous savez qu'il existe deux systèmes dans la Torah. Il y a une injonction qui est positive, une injonction qui est négative. Le Ramban Nachmanide, dans la paracha de Yitro, il explique que toutes les mitzvot positives font appel à ce qu'on appelle la Ahava, l'amour. les mitzvot négatives, mitzvot lotase, ça fait appel à Yira, à la crainte. Ça veut dire que lorsque on me demande de faire, faire, je fais pour l'autre. C'est un acte d'amour vis-à-vis de l'autre, je fais quelque chose. Lorsqu'on me dit ne pas faire, on parle déjà maintenant de respecter la parole de l'autre. Je ne fais pas pour l'autre parce que je fais rien. Je ne fais pas pour l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas de rapport qui est de celui d'élargir quelque chose, d'inventer quelque chose, de me retrouver autre part de ce que j'étais, mais le contraire. Ça, c'est un rapport d'arrêt vis-à-vis de l'autre, de respect vis-à-vis de l'autre. De ne pas faire ce que l'autre m'a demandé de ne pas faire. Ça, c'est le principe de la mitzvah positive et de la mitzvah négative. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire pourquoi. Vous savez qu'en hébreu, dans le langage des Chachamim, leur façon de s'exprimer révèle toujours ce qu'il y a à l'intérieur de la pensée juive. Lorsqu'on dit que quelqu'un craint Dieu, on ne dit pas hein, il est Yirei Hashem, il craint Dieu. On dit il a de la Yirat Shamaim. Et pourtant, lorsqu'on dit que quelqu'un aime Dieu, on ne dira jamais il a de la Avat Hashem, de la Avat Shamaim. On dira toujours il a de la Avat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi d'un côté on parle comme ça? Yirat Shamaim, la crainte du ciel, on ne parle pas du bon Dieu. Avat Hashem, on ne dira jamais Avat Shamaim. Bon, si on essaye de penser simplement, on va dire c'est normal. Tu as peur quand tu parles de Yira, tu crains. Alors tu crains tout ce qui est au-dessus de toi, Shamaim. Ava, aimer faire pour. Je ne fais pas pour le ciel. Je peux avoir peur du ciel, mais je ne fais pas pour le ciel. Mais il y avait une raison à ça. Ça veut dire, celui qui dit qu'il a peur que le ciel lui tombe sur la tête, pourquoi il parle du ciel? Pourquoi il ne parle pas du bon Dieu? On va essayer de comprendre plus que ça. Vous savez que les Avot, les pères Avraham, Isaac et Yaakov, il est écrit dans le verset, Chesed, le Avraham, et par rapport à Yaakov, il y a marqué, Titen, Emet, le Yaakov. Yitzhak, comment il s'appelle? Pachad Yitzhak. On va essayer de voir quels sont ces termes. Chesed, l'Avraham. Ça veut dire que Avraham Avinu, pour nous, c'est le principe du Chesed. Chesed, ça veut dire hein, la bonté, le rapport avec autrui. Yitzhak, c'est Pachad Yitzhak. Pachad veut dire la peur, la crainte. Celui qui se méfie. Yaakov, c'est le Emet. Il est écrit dans la Kabbalah que c'est la raison pour laquelle, à cause de ce verset, qu'on interprète dans la Gemara, dans le traité de Hagiga, que sur le trône divin, il y a une effigie d'un homme. Quel est cet homme dont l'effigie se trouve sur le trône divin? Ziv Ikunin Shel Yaakov. C'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Chez Nehemar, Titen Emet le Yaakov, et Yadua Chez Chotmo Chez la Kadosh Baruch Hu, Emet, Chotam, Motamo, le sceau, le tampon, la caractéristique, on va dire, d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Tout ça, c'est des mots. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là. Quand on dit Chotmo Chez la Kadosh Baruch Hu, Emet, on raconte une histoire du José Miloubine, le voyant de Lublin. C'était un des élèves d'un élève du Baal Shem Tov. Un jour, ses élèves voulaient lui faire une blague. Pourquoi? Parce que c'était l'époque de Napoléon et on parlait beaucoup du Mashiach à ce moment-là. C'était l'époque qui suivait l'époque de Shabtai Tzvi. Il y avait un autre forme ici qui s'appelait Franck. Il y avait les shabbatéistes, il y avait les franquistes. Et le Chosé Meloubin luttait contre ça. Alors, la Gemara raconte que d'où vient la prière qui a été instituée par les Anshei Knesset Agdola, ceux de la Grande Assemblée, de dire tous les matins Baruch Shamar Vaya Olam, avant de commencer la fila. Nafal Pitka Mishmaya. Il est tombé un manuscrit du ciel et il avait marqué Baruch Shamar Vaya Olam jusqu'à la fin. Et comme ça, les Chachamim l'ont institué. Alors, ils ont dit on va lui faire une blague. Ils ont pris un parchemin et ils ont marqué Yitzhak Ben, il s'appelait Yitzhak. Il est Mashiach Hashem. Ok. Ils sont venus chez lui, ils ont dit on a trouvé ça, c'est tombé, on ne sait pas d'où. Alors il a dit la blague, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien faite. Et pourquoi? Parce que il est écrit dans la Gemara qu'il y a une signature. Chotmo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Donc si déjà HaKadosh Baruch Hu, il écrit quelque chose, il faut qu'il y ait le sort du Emet. Il dit ici, on ne voit pas le Emet. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Le sort, c'est Emet. On va aller un peu plus loin. Nous, on a dit au nom du Ramban, Nachmanide, la mitzvah positive fait appel à une notion de Ahava, Amour. La mitzvah négative à une notion de crainte. Est-ce que ces deux notions sont conciliables? Normalement, les deux notions sont inconciliables. C'est-à-dire, je ne peux pas faire quelque chose en même temps ou éprouver en même temps pour quelqu'un et de l'amour et de la crainte. Ou j'éprouve de la crainte, c'est-à-dire je respecte et c'est ce qui m'inspire de ne pas faire ou de faire. C'est un lien qui est entre nous qui s'appelle le respect. Ou alors c'est un lien qu'entre nous qui s'appelle l'amour. Je peux avoir le matin un lien comme ça, le soir un lien comme ça, mais ensemble c'est impossible. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle Ahava, ça fait appel à une notion qui est la Itrachut, l'élargissement. C'est-à-dire que la Ahava produit des nouvelles données. Je fais quelque chose pour quelqu'un parce que je veux lui apporter quelque chose. La Ira, c'est le contraire. Je respecte, c'est-à-dire que je me rapetisse, je ne fais pas. J'essaye, moi, de me faire petit par rapport à l'exigence de l'autre. Ça veut dire que dans les données de la Neshama, une fois on va appeler ça la Itrachvut de la Neshama, une fois on va appeler ça la Itkatnut de la Neshama. La notion de Ahava, d'amour, ça va me donner quelque chose de plus au moment, et on va appeler ça développer. La notion de ira, la notion de crainte ou de respect, ça va être le contraire. Ça va faire qu'il y a des choses que je ne vais pas faire. Il y a un monde on va dire il y a toute une sorte de choses auxquelles je vais renoncer parce que ces choses-là sont opposées à la relation que je dois avoir. Mais je ne peux pas dire par amour de quelqu'un, je restreins. C'est par respect que tu restreins. C'est pour ne pas que tu restreins. Mais si tu dis par amour de quelqu'un, alors tu donnes, tu offres, tu produis, tu développes. Mais les deux notions sont inconciliables. Je ne peux pas en même temps rétrécir mon monde, mes exigences, mes possibilités, et en même temps les développer dans une même relation. C'est impossible. Il y a un seul avec lequel je peux faire ça. C'est HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la notion de Ahava vis-à-vis d'HaKadosh Baruch Hu, qui fait que je développe de nouvelles notions qui ne font pas partie de mon monde. Mon monde à moi, c'est quoi? C'est manger, c'est boire, c'est dormir, c'est avoir besoin ou ne pas avoir besoin. Tout d'un coup, je vais donner une autre dimension qui est que j'ai une possibilité, moi, d'apporter quelque chose de nouveau dans ce monde. Je vais aller faire un maas et je vais aller faire une mitzvah tassé, produire quelque chose de nouveau. On appelle ça Ahava. La raison pour laquelle je le fais, ça peut être par respect. Parce qu'il ne s'agit pas de respecter quelqu'un. Je n'ai pas quelqu'un devant moi qui a besoin de ceci ou besoin de cela, qui a besoin de mon geste ou qui n'a pas besoin de mon geste. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à une personne ou à quelqu'un de physique qui ferait que la relation, elle est ou dans un sens ou dans l'autre. Mais je m'adresse à une entité qui en même temps peut faire que je développe plein de choses, mais en même temps dans ce développement, j'accepte de me restreindre dans plein de choses. C'est ça ce qu'on appelle le Emet. Le Emet, la vérité, c'est-à-dire que je mets de côté tout ce qui n'est pas la vérité. Et j'ai développé un nouveau concept qui est que j'ai un rapport avec la vérité, que je n'avais pas avant. Je vais faire quelque chose que j'estime vrai. Il prend sa dimension dans la notion de vérité que j'exprime dans ce geste-là. Mais il est possible qu'il me coûte énormément et qu'avec ce geste-là, le fait de ne vouloir ou de ne pouvoir n'avoir de rapport qu'avec cette vérité-là, qui me donne énormément de possibilités, c'est vrai, mais je suis obligé de renoncer à la moitié de ma vie, aux trois quarts de ma vie, à un quart de ma vie. Pourquoi ? Parce que le rapport avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme le rapport avec un homme qui doit être défini par un sens des choses. La mitzvah tassé et la mitzvah lo tassé, elles font appel à deux notions différentes qui sont antinomiques lorsqu'il s'agit de mes rapports avec les hommes, mais qui sont complémentaires lorsqu'il s'agit de mes rapports avec Akadosh Baruch Hu. Si je disais à quelqu'un « je t'aime par respect », il ne serait pas content. Il veut bien à rigueur que je le respecte par amour, mais pas l'aimer par respect. Akadosh Baruch Hu, de l'aimer par respect, c'est pas grave. Parce que l'aimer par respect, ça veut dire que j'ai pris conscience que je ne suis pas seul au monde. Et que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu des droits, mais peut-être aussi des devoirs. Donc, ça n'est pas que j'ai une relation dont l'autre attend quelque chose de cette relation, et que je suis obligé de définir, ou d'un côté ou de l'autre, ou tu te restreins, tu ne fais pas certaines choses à cause de moi ou grâce à moi, ou alors tu fais quelque chose de nouveau pour moi, ou grâce à moi. Tu es obligé de définir. Vis-à-vis de quelqu'un, je n'est pas obligé de définir. Parce que la seule définition que je peux lui donner vis-à-vis de moi, c'est qu'il existe. C'est qu'il y a quelque chose qui est extérieur de moi, et que ce quelque chose qui est extérieur de moi m'oblige à deux attitudes qui sont complémentaires et non différentes, de savoir que je ne suis pas le seul. Donc tout ce dont j'ai besoin, il va falloir que je tienne compte de quelqu'un qui est et qui existe en dehors de moi. Et d'un autre côté, il faut que j'ai un rapport avec lui. Il faut bien que je puisse le définir. Une, ça s'appelle la mitzvah tassé, et l'autre, ça s'appelle la mitzvah lotassé. De pouvoir avoir un rapport double, ça ne peut exister que par rapport à la notion de Emet. La vérité, c'est quelque chose qui me donne une dimension formidable. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus seul. Je suis vrai. Lorsque je suis seul, je suis une opinion. Je suis un avis. Je suis un goût, je suis une pensée, mais la vérité, ça donne une dimension qui est extérieure à moi. C'est vrai, ça ne peut exister que s'il y a quelqu'un qui va dire que c'est vrai, ou qui va donner une définition de la vérité qui est extérieure à moi. Ça s'appelle la Ahava. D'un autre côté, ça s'appelle la Ira, parce que si c'est vrai, c'est que c'est pas faux. Donc tout ce qui est faux, tu vas être obligé de l'enlever, et ça va te restreindre au point que tu ne peux arriver que à la vérité. Vous comprenez ? Ça veut dire que si tu demandes quel est l'être qui restreint le plus l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'est pas là, je peux me permettre énormément de choses. Mais quel est l'être qui développe le plus l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'est pas là, je n'ai d'autres dimensions que moi-même. Alors que là, j'ai une dimension de ce que nous appelons le Emet, la vérité. Ça, c'est marqué dans le mot Emet. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une chose qui a l'air d'une blague, mais ce n'est pas une blague. Il est écrit dans le Zohar, lorsqu'il parle du langage des animaux, vrai que les animaux ont un langage. La preuve, c'est qu'on dit que Shlomo Amelech connaissait le langage des animaux. C'est la seule preuve qu'on a qu'ils aient un langage. On n'a pas d'autre preuve. Alors, le Zohar parle de ce langage des animaux. Et il dit, la vache s'exprimera toujours par la lettre même, parce qu'elle n'est pas sarvanite. Sarvanite, c'est un animal qui ne va qu'avec son maître. Il est sarvan. Chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose de lui, on est obligé de le forcer. Une vache, vous n'êtes pas le maître, elle ne vous a jamais vu. Vous la prenez par la corde et elle va avec vous. Elle n'est pas sarvanite. Elle connaît son maître, elle va obéir à son maître, mais elle va obéir à n'importe qui. Et déjà, c'est pour ça qu'elle s'exprime par la lettre même. Mais dans l'accent, il y en a qui font mais, me, mais c'est toujours la lettre même. Et c'est, paraît-il, ça aussi on ne sait que par le Zohar, c'est le seul animal qui s'exprime par la lettre même. Pourquoi c'est la lettre même? D'après ce qu'on a dit, vous pouvez très bien comprendre. Le Emet, c'est la première lettre, la lettre du milieu et la lettre de la fin. Aleph, même, c'est la lettre du milieu. Emet est formé de ces trois lettres. La première, la dernière et celle du milieu. Aleph, tout le monde sait qu'est-ce que c'est Aleph. Lorsqu'on dit mais Aleph de Tav, du début jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. C'est-à-dire que le Emet, il englobe le tout. Mais le Emet, il englobe aussi la lettre même. Ça veut dire qu'on n'a jamais appelé la vérité Et en hébreu. On l'appelle Emet. On n'appelle pas Et. Parce que si c'était englobé le tout, il suffirait de me dire Et. Mais Et, ce n'est pas le Emet. On marque le mot Et dans la Torah lorsqu'on veut englober quelque chose. Chaque fois qu'il y a marqué Et, c'est pour un ribouille, pour me dire qu'il y a aussi autre chose qui va avec ce qu'on veut dire. Ok. Donc je comprends que Et, c'est Aleph Tav, c'est englobé. Mais pourquoi avoir mis un même au milieu? C'est très simple. Parce que le Emet fait apport, hein, il fait rapport à un concept qui est triple. Pour que le Emet, pour que quelque chose soit vrai, il faut qu'il y ait un triple rapport aux choses. Il faut d'abord que j'ai un regard sur l'événement ou sur la chose. Il faut que je caractérise quel est l'événement et quelle est la chose que j'ai vue. Et il faut que je rejette un regard sur la chose. Et à ce moment-là, je peux dire, ça, c'est émettre ou c'est pas émettre. On va donner un exemple simple. Shimon, X, est allé emprunter de l'argent à Y, Reuven. Bien entendu, il ne veut pas lui payer. Il y avait deux témoins. Les deux témoins viennent au Bédin, ils disent, voilà, Shimon a emprunté de l'argent à Reuven. Les deux témoins viennent dire le regard qu'on doit porter à l'événement. Il a emprunté de l'argent. Ils ont vu un événement. Ils ont tiré une conclusion qui est, Shimon a emprunté de l'argent à Reuven. La vérité est donc que Shimon doit de l'argent à Reuven. Il y a un triple rapport aux choses qui s'est passé. D'abord que Shimon a vraiment emprunté l'argent à Reuven. Ensuite que quelqu'un l'ait vu et quelqu'un puisse percevoir qu'il a vraiment emprunté de l'argent à Reuven. Et donc quelqu'un qui peut établir que le Emet est que lorsque Reuven et Shimon se disputent, c'est Reuven qui a raison, puisque Shimon a vraiment emprunter de l'argent à Reuven. Donc lorsque Reuven vient dire Shimon me doit de l'argent, c'est Emet. Je vois un mur. Je dis les blancs. Donc, on ne va pas lui mettre de la peinture grise. On va le repeindre en blanc. Tu as vu quelque chose, c'est bien. c'est toi qui as défini que ce quelque chose était blanc. Et c'est toi qui arrives à la conclusion que quoi ? Que c'est le blanc qu'il faut parce que tu as vu que le mur était blanc. Tu as eu un triple rapport. Le rapport du milieu, c'est l'appréciation qu'a l'homme de sa perception. Il y a des gens qui voient, mais ils ne voient pas le Hémet. Vous voyez le mur blanc, etc. Non, mais il est bleu. Est-ce qu'il le voit bleu ? Est-ce qu'il a décidé que le blanc, c'est le bleu ? Est-ce qu'en vérité, il sait que c'est blanc, mais il veut dire bleu ? J'en saurais rien. Avant d'arriver à faire coller ce que quelqu'un a défini avec la réalité qui est la troisième notion, il faut que je passe par une définition de ce que tu vois et ce que tu définis, et de savoir si elle est émette. C'est pour ça que la lettre du milieu, elle est obligatoire dans le Aleph et le Tav. Parce que de me dire que le émette, c'est ce qui englobe tout, qui va de Aleph à Tav, ça ne veut pas dire que j'en ai la perception. Le émette n'existe pas si j'en ai pas la perception. De dire qu'Akadosh Baruch Hu émette, s'il n'y a personne pour le dire, alors il n'est même pas émette. Parce qu'il serait émette par rapport à qui ? À quoi ? À quelle valeur ? Il va déterminer quel élargissement de la pensée de quelqu'un. Émette, c'est quoi ? Vous comprenez ? De dire qu'Akadosh Baruch Hu est émette, ça veut dire qu'il est source de vérité. C'est lui qui fixe la vérité. C'est seulement s'il y a quelqu'un pour le dire. Ça ne suffit pas d'être le premier, le dernier. Ani Rishon, Vani Aharon. Il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui puisse dire que toi tu es Rishon et toi tu es Aharon. Parce que sans qu'il y ait quelqu'un pour le dire, ça n'existe pas. Parce que ça existe aux yeux de qui ? Aux yeux de celui qui l'a inventé. Mais quel est le rapport avec l'Emet qu'il a, lui ? Vous comprenez ? Il ne peut pas le définir. Le rapport avec l'Emet est toujours obligé de se livrer en trois fois. Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il peut faire, il n'a que la première, il n'a que la dernière. Mais l'appréciation du Emet, elle ne peut être que s'il existe quelqu'un de l'extérieur qui peut le définir en tant que Emet. Je peux dire, je dis la vérité, mais il faut que je le dise à quelqu'un. Tant que je le dis à personne, cette vérité, elle n'a de rapport qu'avec moi-même. Donc elle est vérité de quoi ? Parce que j'ai besoin d'un rapport qui soit triple. Il faut que je le définisse, il faut que j'arrive après à coller. Mais si on ne me demande pas de le faire, alors tu peux tout englober. C'est vrai que tu seras vrai, mais tu n'existeras pas en tant que vrai. C'est ce qu'il faut comprendre. Que la vérité, ça n'est pas une idée. C'est une existence. Une chose est vraie. Elle est vraie, ça veut dire qu'elle existe en tant que vérité. Elle doit exister pour quelqu'un. Elle doit exister pour quelque chose. Et vous allez voir que ça n'est pas simplement que les Chacham nous ont dit, et ça, c'est un rapport avec la fête de Sukkot. Parce que vous savez que la fête de Sukkot, c'est la dernière fête des trois fêtes. Et c'est la dernière fête du mois de Tishri. Mais la dernière fête du mois de Tishri, comment il s'appelle le mois de Tishri ? Comment est-ce qu'on appelle le mois de Tishri dans le langage des Chacham ? C'est un verset dans Melachim. Le Chodesh Hashvi, Chodesh Ha'etanim. Etan, c'est un mot très compliqué. Etan, ça veut dire normalement vrai. Je vais vous dire, la seule façon de savoir ce que veut dire le mot Etan, c'est David Ameler. Dans le Tehilim, Peytet 89, Maskil le Eitan Haezrahi. Regardez Rashi, il vous cite le Midrash. Eitan Haezrahi, c'est qui Eitan Haezrahi? Un monsieur, il s'appelait Eitan Haezrahi, Avraham Avinu. Ezrahi, ça veut dire c'est le premier citoyen. C'est la première personne qui s'est révélée avoir une notion claire de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et on l'appelle Eitan. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Eitan ? Il y a beaucoup de discussions pourquoi Avraham Avinu s'appelle Eitan. Ce qui est le plus vrai, Mistama, c'est l'opinion qui dit que Eitan vient du mot araméen qui est It. It, ça veut dire Yesh, exister. Avraham Avinu, il est défini en tradition chez Ikir et Dboro. Il a reconnu son créateur. C'est pour ça qu'il s'appelle Eitan, Yesh. Sachez toujours que la lettre Nun, elle vient renforcer l'idée qui est dans le mot. Chaque fois qu'un mot se conjugue et on y ajoute la lettre Nun, ça vient pour renforcer l'idée du mot. Exemple qui est marqué dans la Gemara dans Psachim, dans le traité de Psachim. Eitzev et Itzavon. Il y a marqué Be Eitzev tel dibanim. Eitzev, c'est la douleur. Be Itzavon tochalechem. Comment est-ce qu'on dit une grande douleur? Itzavon, on ajoute un Nun. It, être. Eitan, celui qui est et qui ne bouge pas. Il est dans toutes les situations. Ça qu'Avraham nous appelle Eitan Ezrahi. Le mois de Tishrei s'appelle dans le langage de la Bible du Tanakh Yerach, le mois à Eitanim. Eitanim, c'est Avraham Avinu. Eitanim, c'est les pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. On les appelle Eitan. En ce qui nous concerne, vous allez comprendre aussi pourquoi le mot Emouna a été pris du mot Emet, Aleph même, et on a ajouté un Noun qui est Emouna, ça veut dire je certifie être vrai. Je pense être vrai. Je mets tous mes billes dans ce qui est vrai. C'est ça que les mots Emouna, on a ajouté au Aleph même, on laisse tomber la dernière lettre, ce qui est classique en hébreu, et on ajoute un Noun, Emouna. On n'a pas dit Ama ou Amata. La Emouna, la confiance, la croyance, on a ajouté un Noun pour renforcer l'idée du même. Si vous voulez une preuve à cette idée-là, vous la verrez dans la Torah. Lorsque il y a quelque chose qui est incompréhensible d'après nos caractéristiques logiques, d'après nos critères logiques, on est obligé de faire appel à la Emouna. Parce que vous savez qu'on a deux vérités, nous. On a une vérité qu'on arrive à cerner logiquement. Et une autre vérité dont on pense que, puisque Akadosh Baruch Hu le dit, ben c'est vrai. Mais moi, je n'arrive pas à la comprendre. On appelle ça Emouna. On a déjà dit que la Emouna commence lorsque la vérité ne fait plus, n'apparaît plus. J'ai confiance dans mon associé. Le jour où je l'ai trouvé la nuit en train d'ouvrir mon coffre-fort et que je n'ai rien dit, alors ça devient de la Emouna. Mais si je sais très bien qu'il est obligé de venir chercher les papiers, c'est du Emet, c'est pas de la Emouna. Tu as besoin d'avoir confiance. C'est-à-dire que tu penses que ce qui se passe, c'est Emet. À partir du moment où tes critères de logique n'arrivent plus à cerner le Emet, ça devient de la Emouna. C'est pour ça qu'on appelle Emouna le fait de ne pas répondre ou de ne pas prouver quelque chose des questions qu'on a. Parce que l'aïmouna commence lorsqu'on a des questions. Lorsqu'on n'a pas des questions et qu'on comprend, il n'y a pas d'aïmouna. L'aïmouna commence quand on ne comprend pas. Donc, le paradoxe est, on croit que celui qui a des questions, c'est celui qui ne peut pas être mami, il n'y a pas besoin d'aïmouna. Il n'y a que celui qui ne comprenne pas qui est mami. Celui qui comprend, il n'a pas besoin d'être mami. Vous comprenez? Si à chaque instant, je sais que ce que fait mon associé, c'est exactement ce qu'on a décidé, c'est du Emet, c'est pas de la Emouna. Je n'ai confiance en lui que lorsqu'il fait le contraire. Donc j'ai une question. Et cette question, la réponse à cette question, c'est la Emouna. Je sais que c'est Emet, pas parce que j'arrive à le prouver logiquement, mais parce que j'ai un rapport qui est un rapport de Emet, on appelle ça la Emouna. C'est pour ça qu'on a ajouté le Noun, et que la Emouna, c'est le Emet avec le Noun. On va continuer. Donc on a dit, normalement, le rapport de ce que nous appelons la Ahava, j'aime quelqu'un, ça développe en moi des notions que je n'aurais pas développées si j'étais seul. La Yira développe en moi la crainte des restrictions que je n'aurais pas établies si j'étais seul. Donc la Emouna vient développer, la Ahava vient développer Et la ira vient restreindre. Il n'y a que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut avoir ce double rapport. Comme ça on va dire. Ce double rapport, c'est ce que nous appelons le Emet. Donc on va recommencer. Titen, Emet, le Yaakov. Yaakov, c'est la quintessence des deux midot, des deux attitudes qui existaient dans le monde avant lui. La première attitude, c'est Chesed l'Avraham. Avraham est venu et il a dit, puisqu'il existe un Dieu, et qu'on ne peut comprendre la création du monde que par l'acte de Chesed, c'est pour ça que vous comprendrez que le Mizmor, le Tehilim 89, Peytet, qui commence Maskil le Etan à Ezrahi, ça commence Olam Chesed Yibane. La perception que j'ai de l'attitude créatrice, c'est un geste de Chesed, de Ahava. Ça n'est pas un geste de restriction. D'après la Kabbalah, c'est aussi un geste de restriction. Parce que de même que nous, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le rapport de la Ahava et de la Yira, il peut être dans la même chose. Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de l'homme, son rapport de la Ahava et de la Yira, il peut aussi exister. Bon, mais ça, c'est déjà la Kabbalah, donc on ne connaît pas la Kabbalah. Donc, Mimele. Maintenant, on va arriver à comprendre à ce que deux attitudes qui existaient, puisque l'attitude de Yitzhak part à Yitzhak, la peur, c'est ce qu'on appelle la Ira. C'est quelqu'un qui respecte l'autre. Ça veut dire que la notion qu'il avait de la création et du créateur, ça n'était pas la même notion que celle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, oui, Kiret Bogu, il a connu le créateur. Il a compris que la création, c'était un geste de bonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, dans sa vie, lui a une autre attitude. C'est l'attitude de la Ira. Que puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et puisque je suis créé, je dois maintenant tenir compte de lui. C'est ce qu'on appelle le respect, la Ira. C'est pour ça que la Mida, la notion qui définit la Havaout, c'est-à-dire en quoi Yitzhak s'appelle le père, c'est parad. Ça veut dire le fait de craindre l'autre, de respecter l'autre, d'avoir ses limites par rapport aux besoins de l'autre, ou par rapport aux exigences de l'autre, ou par rapport au but de l'autre. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Yaakov Avinu, c'est une attitude qui est les deux en même temps. Parce qu'à partir du moment où il y a un Emet, il n'y a plus de Emouna. Yaakov Avinu, c'est le seul qui a commencé à voir se réaliser la promesse. Pourquoi ? Avraham a eu deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Ça pouvait passer par Ishmaël et de rien donner. Ça pouvait passer par Yitzhak et donner. Yitzhak a eu deux fils, Esav et Yaakov. Ça pouvait passer par Esav et ne rien donner. Ça pouvait passer par Yaakov et ne rien donner. Yaakov, mitato shelema. Il n'y a pas eu de résidu. À partir de Yaakov, la notion de vérité de la promesse divine a commencé à exister. C'est passé de la Emouna au Emet. À partir du moment où j'ai vérifié certaines notions de la promesse divine, le rapport que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est plus simplement un rapport de Ahava ou un rapport de Ira. Ça devient un rapport qui est conjugué des deux et qui est le rapport du Emet. Sans être obligé de passer uniquement par l'Ahava ou uniquement par la Ira. Et on va essayer d'expliquer ça. On va voir Ben Adam Lachavero, les hommes entre eux. Je connais quelqu'un depuis pas longtemps. J'ai deux attitudes possibles. Ou mon rapport commence par la Hava, ou il commence par la Ira. Il y a des gens qu'on aime, et on s'oblige à les respecter puisqu'on les aime. Il y a des gens qu'on respecte, et on s'oblige à les aimer puisqu'on les respecte. Le rapport peut commencer d'un côté, peut commencer de l'autre. Il arrive un moment où les notions deviennent confondues. Pourquoi ? parce qu'on a accepté d'avoir un type de rapport qui fait part et de la Hava et de la Ira, et qu'on ne remet plus en cause, sans se demander si ce rapport il est un rapport de Hava ou un rapport de Ira. On va voir ce qu'il y a marqué dans ce que disent les Chacham. Quelqu'un se marie. Il y a marqué Oavo, Oava que Gufo, ou Mechabda Yoter mi Gufo. Vous voyez ce que ça veut dire? On dit à l'homme, mais c'est la même chose, au contraire, soyez rassurés. Oava que Gufo. On doit aimer son épouse comme son propre gouffre. Attention. Son propre gouffre, ça veut dire que tu dois comprendre que ce que tu fais pour toi, et bien maintenant tu le fais pour deux. Il n'y a pas je fais pour toi. Ça n'existe pas. Ça doit se confondre. Oh, va que vous faut. Ce que je rends service à mon gouffre, ça veut dire mes exigences, mes besoins, maintenant ils sont doubles. Le comble de la Hava, on raconte, il y avait un tzadik à Yerushalayim qui s'appelait Rebbe Levin. Un jour, il est allé chez le médecin. Alors le médecin a demandé à son épouse, qu'est-ce qu'elle a? C'est lui qui a répondu, il a dit, nous avons mal aux pieds. Ça s'appelle Ohava que vous faut. Mais maintenant, les Chachamim continuent, ils disent, ou Mechabda, Yoter Megufo. Mechabda le kavod, c'est-à-dire le respect que tu dois, c'est yoter migoufo. Parce que tu peux dire, ce que je fais pour moi, je fais pour l'autre. Mais ce que tu fais pour toi, ne le fais pas pour l'autre. C'est aussi vrai ça. Donc il va sortir que, dans ce qui est positif, ce que je fais pour moi, je dois faire pour l'autre. C'est évident, on est deux maintenant. Mais ce que toi tu tolères pour toi, tu n'es pas obligé de le tolérer pour l'autre. Donc tout ce qui est restrictif, tu dois faire attention à l'autre beaucoup plus qu'à toi. Parce que toi, tu peux, pour toi-même, passer sur certaines choses. Mais ça n'est pas à toi de dire. Un jour, quelqu'un a ramassé de l'argent pour des pauvres. Alors, il est allé chez un. Et voilà, il dit d'accord. Il dit moi, je vous donne 1000 francs. Et mon copain aussi vous donne 1000 francs. J'ai le copain, il a dit, tu dois 1000 francs. Il dit, je ne te comprends pas. Il dit, tout ce que je fais, c'est normal que je fasse aussi pour toi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a confondu les deux notions. Parce qu'il y a des choses que tu fais, mais tu ne le fais pas pour l'autre. Parce que la notion de faire, ça a une restriction chez toi. Et la restriction, elle n'est pas obligatoire pour l'autre. C'est-à-dire, ça devient un jeu que de dire, ce que je fais pour moi, je fais une mitzvah pour moi. Évidemment que je vais la faire pour toi. C'est vrai. Mais ce que ça t'a coûté, il n'est pas obligatoire que tu estimes que ça puisse me coûter la même chose. Donc ce que tu fais pour toi, tu n'es pas obligé de le faire pour moi. Parce qu'en vérité, tu as fait pour moi, mais tu n'as pas seulement fait pour moi. Ce que tu as pris de toi, tu as pris de moi. Et ça, personne ne te donne la possibilité. C'est qu'on peut être les meilleurs copains du monde. Et c'est ce qu'on appelle un calvachomer, un raison par fortiori. Si déjà moi j'ai le droit de mettre la main dans ma poche, et toi tu as le droit de mettre la main dans ta poche, donc on sait quand même que moi j'ai le droit de mettre la main dans ta poche. Mais c'est faux. Parce que le fait que je puisse mettre la main dans ma poche, et que toi tu puisses mettre la main dans ta poche, ça ne t'oblige pas à mettre la main dans la poche de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle Mechabda Yoter Megufa. Ça veut dire, autant tu voudras, pour l'autre, les plus grandes madrigotes, les plus grandes bontés, les plus grandes mitzvot, ça ne t'autorise pas à, et même si c'est pour son bien, même si c'est une chose qui a le plus de valeur, et ça, c'est une halakha. Vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah qui est Zachin Adam Shelo Befanav. On va donner un exemple. Il y a quelqu'un qui vient et qui veut m'offrir un cadeau, mais je ne suis pas là. Il a le droit de prendre quelqu'un d'autre et de lui dire, prends le cadeau pour l'autre. Zachin l'adam. Je donne à quelqu'un, shalom, même s'il n'est pas là. Un autre, il devient un chaliar, il devient envoyé automatique du récipiendaire. Pourquoi? Parce que la Torah dit, je sais bien que l'autre veut le recevoir. Donc, l'autre, si il savait qu'on peut recevoir un cadeau, il aurait dit, va le chercher pour moi. Donc, maintenant, c'est comme s'il te nommait et disait, tout ce qui est pour mon bien, va le chercher pour moi. Zahin adam shomefanam. Vienne chacham, dans le traité de Darim Yedvand. Est-ce que je peux prélever de la tourma pour l'autre? Ah. Je lui fais faire une mitzvah. Je vais prélever de sa tourma, je vais le donner au Kohen. Je vais prendre le maaser Rishon, je vais le donner au Lévi. Je vais prendre le maaser Sheni, je vais le donner au pauvre. Je vais le mettre de côté pour Yerushalayim. Je vais prendre le maaser Ani, je vais le mettre de côté pour les pauvres. Je vais prendre la tourma de maaser et je vais la donner au Kohen. Le type là, j'ai pris 50 000 francs sans aucun problème. Mais Zachin Adam Shlomo Fanav, je lui ai fait faire une mitzvah. Là-bas. Non, tu peux pas. Et bien que la mitzvah de Trouma, même si tu donnes un seul grain, tu as déjà fait la mitzvah. Ce grain-là, tu ne peux pas le prendre de l'autre pour lui faire une mitzvah. Mais je vais faire une mitzvah. Non. Si la mitzvah ne lui occasionne aucune perte, aucun effort, alors tu peux dire, ben on fait ça pour les deux. Mais à partir du moment où c'est l'effort, tu ne peux pas dire je le fais pour l'autre. Non, c'est l'autre de deux qui doit le faire. Ça veut dire que la restriction dans l'attitude de la Ahava, elle est que c'est vrai que la Ahava procure la notion qu'on est une et même personne. Mais elle doit toujours être restreinte par la notion de respect, qui est la notion de Yira, qui fait que bien qu'on a les mêmes intérêts, bien qu'on ait les mêmes personnes, il en reste qu'on est deux différents. Et que tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre. C'est impossible. Si on continue en trésor. Il y a un moment où ce rapport-là, il va s'estomper. Et ce rapport-là va s'estomper au point que je vais arriver à prendre la place de l'autre. Lorsque j'aurai vu que l'autre, il a l'habitude de faire le même geste que moi. Lorsque j'aurai vu que la restriction chez l'autre, ça devient une notion qui n'est plus mise en cause. Elle devient habituelle. À partir de ce moment-là, il y a une réalité qui s'appelle le Emet et qui fait que je peux me substituer entièrement à l'autre. Ça aussi, c'est une halakha. L'halakha, elle est qu'une femme n'a pas le droit de disposer de l'argent de son mari pour donner la tzedaka. Donc, si quelqu'un vient pour avancer de l'argent pour la tzedaka, il n'a pas le droit de demander à l'épouse. Il doit demander au mari. L'halakha, elle est aval davar moat. Lorsque c'est un petit don que le marié, normalement, il le fait, il a l'habitude de faire ce petit don-là, à ce moment-là, il a le droit de donner pour son mari. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire la tzedaka sur le compte de l'autre, bien que tu veux lui faire faire une grande mitzvah. Mais à partir du moment où tu sais que lui, il le fait, et que d'avoir moi une petite chose, ce n'est pas un effort pour lui qui est si grand, qui le remet en cause à chaque fois, alors tu peux faire pour l'autre et l'autre donner. Qu'est-ce que c'est que d'avoir moite? Ça dépend des gens. Les gens, c'est 50, les autres 50, mais tout dépend des notions qu'ont les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un moment où un rapport qui a été fondé ou sur la Hava ou sur la Ira, il devient tellement évident que la notion de émettre, elle devient tellement claire qu'il m'apparaît d'une vérité absolue qu'il n'y a plus de différence entre lui et moi. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus obligé de passer par un rapport qui est ni celui de Abba, ni celui de l'Aïra. On va dire plus que ça encore. L'idéal dans un jeune couple, disent les Chachamim, c'est de se parler. Parce que les gens qui ne se parlent pas, non seulement ils ne se connaissent pas, mais ils ne s'estiment pas. C'est-à-dire que même lorsque je n'ai pas envie de parler, il faut quand même que Ça, c'est lorsqu'ils sont jeunes. Mais l'idéal de gens qui sont mariés depuis longtemps, c'est lorsque, pour se comprendre, ils n'ont plus besoin de parler. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé ici? Il a changé que, au début d'une relation, on a besoin d'un rapport et de le définir. C'est là avant ou c'est là ira. On est obligé de le définir par la parole. On est obligé de dire par les attitudes. Et il y a un moment où le rapport devient émettre. Il n'a plus besoin d'être défini. L'idéal, c'est de savoir ne plus parler. C'est que l'autre comprenne exactement la même chose que l'autre. À partir de ce moment-là, on a changé le rapport aux choses et c'est les choses qui deviennent émettre. Ça, c'est ce qui est le rapport de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a vu la réalisation de la parole divine. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de faire rentrer le Créateur dans la création, comme Avraham et Yitzhak. Avraham, c'est lui qui a fait rentrer le Créateur dans la création. Il y avait d'abord la création, et ensuite le Créateur. Il l'a eu par un rapport de Chesed. C'est-à-dire qu'il a compris que si Dieu a créé ce monde-là, c'est qu'il y avait une notion qui était celle du don, une autre celle qui était de l'élargissement des choses. Yitzhak, il a fait rentrer le Créateur dans la création avec une notion qui est celle de restriction. Il n'est pas tout seul. À partir du moment où ce que Dieu m'a promis, ça devient émettre, ça veut dire que la relation que j'ai avec lui, ça n'est plus une relation à définir par un rapport intellectuel ou par une notion intellectuelle. À partir de ce moment-là, ça s'appelle émettre. C'est pour ça que, bien que Abraham n'était pas moins grand que Yaakov, bien que Yitzhak n'était pas moins grand que Yaakov, celui qui est Chakoukal, qui s'est accabo dans le trône divin, ce qui a marqué Zivi Kunin chez Yaakov Avinu, ça veut dire que le rapport entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, il ne passe pas par une définition de Hava ou de Ira, mais il peut passer par une définition de Emet. Maintenant, on va comprendre ce qui est marqué ici. Il est marqué ici, Inach Yafa, Inach Yafa. Il y a deux notions. Il y a la mitzvot asé et la mitzvot lota asé. Il y a quelqu'un qui est très fort dans les mitzvot asé. Chaque fois qu'il faut faire une mitzvot asé, il est fort. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport d'élargissement de la personnalité qui passe par l'amour, qui porte aux autres et qui porte à Kadosh Baruch Hu. On lui demande de faire une mitzvot, il va faire une mitzvot. On lui demande de donner, il donne. On lui demande de faire ceci, il fait tout. Mais si tu te risques à lui interdire quelque chose, t'es fichu. Ça ne fait pas partie du domaine de ses capacités mentales. Tu veux quelque chose, tu as besoin de quelque chose, tu auras tout ce que tu veux. Les moindres exigences de l'autre, je fais attention. Mais mon rapport, même dans le respect de l'autre, passe par l'exigence de l'autre, pas par l'autre. Je ne ferai pas quelque chose, parce qu'il m'a dit de ne pas le faire, c'est son exigence. Alors c'est un don de ne pas le faire. Mais de tenir compte de la personne, il tient compte que de lui. Pourquoi? Parce que c'est son besoin à lui de faire des choses. Il y a des gens qui sont le contraire. Ils savent tout à fait respecter. Et ils ne vous marcheront jamais sur les pieds. Mais ils ne vous prêteront même pas l'heure. Alors donnez-leur. Pourquoi? Parce que ce rapport qui est de celui de l'élargissement de la personnalité, ils n'ont pas. Ils sont d'accord de se restreindre. Ils savent se faire petit, mais ils ne savent pas être grand. Il y a des gens qui savent être grand, mais ils ne savent jamais être petit. Il y a des gens qui savent être petit, mais ils ne savent pas être grand. La Torah, à travers les mitzvot, elle me demande les deux choses en même temps. Il y a des mitzvot assez et il y a des mitzvot lotas. La mitzvot assez, c'est d'être grand. Tu as fait quelque chose. C'est vrai. Tu as apporté quelque chose de nouveau au monde. Tu as apporté une nouvelle notion. Mais il faut savoir être petit aussi. Tu as envie de ça, ben, prends pas. Il y a le contraire aussi. C'est-à-dire que la avoda de l'homme, elle peut commencer par la ira ou elle peut commencer par la hava. Elle est obligée d'adapter ces deux notions ensemble. Après, ça ne passe plus par ces deux notions, parce que ça passe par un rapport avec le Emet. C'est Emet, je le fais. Je n'ai plus besoin maintenant d'avoir un rapport qui est celui ou de l'élargissement ou de la restriction, parce que le Emet en lui-même frappe. Mais la avoda de l'homme, c'est-à-dire le service divin que doit adapter l'homme dans la création, dans son rapport avec la création, il est obligé de commencer ou par la Hava ou par l'Ira. Tu commences comme Abraham ou tu commences comme Yitzhak. Tu te rends compte que tu n'es pas le seul au monde, donc tu te fais petit. Ou tu te rends compte que tu n'es pas le seul parce que d'autres ont besoin et que tu peux donner aux autres. comme tu veux. Mais le fin fond des choses, c'est d'arriver à ce que Mitzatas et Mitzatlotas se confondent. Ça, c'est ce qui a marqué ici. Inach yafa rayati, inach yafa. Il y a encore une autre notion. C'est que la notion ben adam la chavero et la notion ben adam la makom, c'est-à-dire des rapports entre les hommes et des rapports avec Dieu, elle est aussi double. Je peux arriver à avoir un rapport parfait avec les hommes grâce au rapport que j'ai avec Dieu. Je peux arriver à avoir un rapport parfait avec Dieu grâce au rapport que j'ai avec les hommes. Un homme qui n'a pas d'idée de métaphysique, son rapport avec Dieu va passer par son rapport avec l'homme. C'est-à-dire qu'il va découvrir Dieu à partir de la découverte de l'homme. C'est l'histoire du guerre avec Hillel. Quelqu'un est venu chez Hillel se convertir, il a dit « Convertis-moi, mais je veux que tu m'enseignes toute la Torah sur un pied. » Ça veut dire pendant le temps que je peux me tenir sur un pied. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Moi je ne veux pas tout le charabia, je veux la quintessence. Tu me dis de quoi ça parle ? Oui ou non ? Il a dit, ce que tu ne veux pas faire, l'autre ne le fait pas. Rashi, il explique. Reacha veut Rea Avicha Altazan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le rapport à Dieu passe par le rapport aux hommes. Comment je vais t'expliquer que l'autre est ton égal si vous n'êtes pas le produit de la même création? Il ne peut pas être ton égal puisque c'est toi qui le perçois. Donc il est toujours second. Comment tu vas pouvoir arriver à ne pas faire l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Une fois, quelqu'un m'a demandé, mais ça c'est de la philosophie de bas étage. Même un loubard de banlieue, vous lui dites, tu sais, si tu veux pas te prendre des claques, faut pas donner des claques. C'est ça la quintessence de la Torah. Je lui dis, pourquoi oui? Parce que là, elle est comme ça. Dans mes rapports avec l'autre, je dois essayer de connaître ses exigences, pas par rapport à ses exigences, par rapport aux miennes. Alors que l'on fait toujours le contraire. Et dans la morale la plus absolue, sauf l'exigence de la Torah, c'est toujours comme ça. Il y a un érémiste qui vient chez vous et qui vous dit, vous savez, moi, pour pouvoir obtenir un travail, il faut m'aider. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je t'aide? Il faut me donner une voiture. Trouvez-moi une voiture, je démarre, je vous la rembourse. Il est évident que si j'ai une 605, je ne vais pas lui acheter une 605. D'abord, pour démarrer dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir une 605. Ensuite, quand on crée une entreprise, il faut être modeste. Ensuite, quand on emprunte chez les autres, il ne faut surtout pas avoir les mêmes exigences qu'ont les autres pour eux-mêmes. Donc je lui dis, bon, ben, je vais te trouver une deux choix. Il est venu dire, si toi, ta voiture est en panne, tu aimerais avoir une deux choix. Non. Alors, pourquoi est-ce que tu trouves normal que l'autre ait une deux choix? On n'est pas en train de dire à quelqu'un, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est-à-dire, tu ne veux pas recevoir des claques, ne donne pas des claques. On n'est pas en train d'établir un rapport social. On est en train de fonder une métaphysique. Tu ne pourras arriver à l'idée de ce que la Torah détermine, qu'il y a un créateur, et que le monde entier fait partie de son projet, de son service, comme on veut, qu'à partir du moment où tu concevras que l'autre, c'est ton égal, pas parce que tu as décidé toi qu'il est ton égal, donc ça vient de toi. C'est parce que la référence, elle est la même pour les deux. Ce que le monde donne à l'un, pourquoi il ne donnerait pas à l'autre? Donc à partir de ce moment-là, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pas, tu sais, je vais te donner un truc pour que dans la vie, tu ne prennes pas le claque. C'est pas ça. C'est qu'on est en train de dire à quelqu'un que tu peux arriver à la perception de l'idée qu'il y ait un créateur à partir du moment où tu te rends compte que d'après le Emet, vous êtes égaux totalement. Et que tes exigences et les siennes, elles doivent être au même niveau chez toi. C'est pas possible. Ça n'est possible que si tu penses qu'il y a un tiers qui vous regarde et à ses yeux, vous êtes égaux. Mais s'il n'y a que toi et lui, il est impossible de penser que les exigences des autres ont un rapport, même petit, avec mes exigences à moi, puisque c'est moi qui perçois l'exigence de l'autre. Et je ne pourrai jamais percevoir l'exigence des autres comme mes exigences à moi, que je ne perçois pas, qui sont innées, et qui font que je perçois les gens à travers les miennes. C'est impossible, ça. C'est ça que le Rambam dit. Va'av talorea hakamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, en vérité, c'est une gouzma. C'est un peu exagéré. Parce que c'est impossible. Parce que toujours, je le mesurerai à quelque chose qui existe déjà chez moi. Donc ce sera toujours un rapport par rapport à quelque chose qui existe. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc c'est un idéal. Et on peut s'en approcher, c'est ça la mitzvah. Mais que quelqu'un arrive d'une façon absolue à ce que lui et l'autre soient égaux exactement, c'est des choses qui sont rares. Et on ne peut pas demander à l'humanité une chose pareille. Mais on peut demander à l'humanité d'en s'en approcher. Maintenant que quelques-uns y arrivent, ça peut exister. Mais que ce soit une notion à l'échelle humaine, à l'échelle de la planète, c'est impossible. Donc dans le rapport qui existe entre Ben Adam et la Chavero, les rapports entre les hommes et les rapports entre Dieu, il y a cette perception-là qui est de quoi ? J'arrive à fonder une morale, j'arrive à fonder une existence possible pour toute l'humanité à partir du moment où je perçois l'idée de Dieu, sinon non. Mais il y a le contraire aussi. Il y a celui qui définit son rapport avec l'autre. Parce que l'idée première, c'est l'existence du Créateur. C'est ça ce que le Navi dit. Alo av echad le kulano. Le peuple juif, il n'a pas besoin de cette perception-là du goy. Ça, c'est lorsqu'on veut enseigner à un autre. Mais le juif lui-même, l'idée de Dieu, il est en héritage, elle est innée chez lui. Elle est même dans ses gènes. Alors, le rapport, il est différent. Comment vas-tu considérer l'autre ? C'est difficile à arriver à ce que les exigences de l'autre soient ses propres exigences. Mais pour toi, tu as une façon de le concevoir. Allo av echad le kulan, on a un seul père. Dans une famille, tu arrives bien à comprendre que l'un ne doit pas être favorisé par rapport à l'autre. Alors, puisque l'idée du Créateur est l'idée première, l'idée seconde, c'est qu'il y a une famille. D'abord, il y a le Havre et ensuite les enfants. Alors, pour toi, le rapport avec l'autre passe par le rapport avec Dieu. Pour le non-juif, pour accéder à la Emouna, pour accéder à l'idée de Dieu, ça va être le contraire. Il va être obligé d'accéder à cette idée de Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il va accéder à l'idée qui est celle de la normalité qu'on perçoit tous les jours, que l'égalité devrait être absolue entre les hommes, elle ne peut passer que par l'idée de Dieu. Ok. On ne peut pas fonder une morale sans métaphysique. Mais pour le juif, c'est le contraire. C'est que métaphysique oblige à la morale. Il est impossible que tu conçois un rapport avec Dieu et que tes rapports avec les hommes ne puissent pas être de la même qualité que les rapports avec Dieu. Là, il y a une chose qui cloche. Donc c'est le contraire. Ça, c'est le pshat Inar Yafa Rayati Inar Yafa. Dans le clan d'Israël, le rapport entre l'homme et Dieu, le rapport entre l'homme et l'homme, il est de la même qualité. C'est-à-dire qu'on a observé que tout celui qui a un rapport négatif avec l'homme, il a aussi un rapport négatif avec Dieu. Et que tout celui qui a un rapport négatif avec Dieu, il a un rapport négatif avec l'homme. Je vous dis tout de suite, la fin de la phrase, elle n'est pas évidente. Parce que la plupart des gens ne sont pas d'accord. Les gens ils vous disent, moi le bon Dieu je ne connais pas, mais j'ai jamais fait du mal à mon prochain. C'est vrai. Problème de savoir, est-ce que sans l'idée de Dieu, tu es aussi arrivé à lui faire du bien ? Parce qu'il ne suffit pas de ne pas faire de mal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune responsabilité dans le meurtre des Zoulous. Ils n'ont fait aucun mal. C'est vrai. Il en reste que peut-être que tu aurais pu faire quelque chose. Ça, c'est déjà une autre notion. Ça veut dire que dans la Torah, il est inconcevable que quelqu'un puisse avoir un rapport vrai avec les hommes et qu'il n'ait pas le même rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui cloche. Ce rapport, il n'est pas vrai vis-à-vis des hommes. C'est qu'au fond, c'est un rapport social. Et le rapport social, il existe malheureusement. C'est que, aux enfants, lorsqu'on les éduque, il faut faire très attention de ne jamais leur dire tu veux pas qu'on te fasse ça, ne fais pas ça. Parce que ça instaure chez eux l'idée de l'égalité par rapport aux propres besoins. C'est-à-dire que vous avez des humanistes parfaits qui ont un besoin extrême d'apporter aux hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement besoin eux-mêmes qu'ils conçoivent très bien que tout le monde attend beaucoup. Alors ils donnent beaucoup aux autres. Mais c'est un rapport qui est faux. Pourquoi ? Parce que le jour où ils auront moins de besoins, ils considéreront que les besoins des autres sont superflus aussi. Et là, ça commence à être difficile. C'est pour ça que, sans métaphysique, Il est très difficile de demander à quelqu'un qui se prive de donner plus aux autres. Je ne vois pas pourquoi. Le rapport, il peut commencer d'un côté, il peut commencer de l'autre côté. Mais en vérité, il doit être le même. C'est pour ça que, lorsque Akadosh Baruch Hu parle du peuple juif, il lui dit, « Inach yafa, en ce qui concerne Benam le Chaver, ou le rapport avec les hommes. » C'est-à-dire que le rapport de la Torah, qui est régi selon la Torah, il est de la même qualité en ce qui concerne les hommes que la qualité qui doit pouvoir être obtenue du rapport en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que de même qu'une satasse et l'autre assez, ça peut commencer d'un côté et ou ça peut commencer de l'autre côté. Mais il en reste que le émet est de pouvoir équilibrer les deux choses et d'avoir exactement le même rapport. C'est pour ça que les Chachamim, lorsqu'ils disent « Inach yafa », ils disent « Il y a les deux côtés. Il y a le côté assez et l'autre assez. Et il y a le côté « Ben Adam la Chaveron » et « Ben Adam la Kom » les mitzvot et le chesed. Maintenant, on va arriver à la troisième chose. Il y a marqué « Ena yichyonim ». Vous savez que dans nos sociétés, le rapport de loyauté ne passe pas par la loyauté elle-même, mais passe par le respect ou l'amour qu'on a de l'autre. C'est-à-dire que si vous allez au fond des choses et vous demandez à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il ne trompe pas son conjoint, c'est parce qu'il ne veut pas lui faire du mal. Donc si on te donne la possibilité sans faire de mal, il dit, mais je ferai toujours du mal. Bon. Tu n'arrives pas à concevoir un rapport de loyauté sans un rapport de force. On doit être loyal vis-à-vis de quelqu'un. Ce qu'on a promis, on doit le tenir. Et l'attitude qu'on a vis-à-vis de l'autre, c'est pas parce que sinon l'autre va en souffrir. Sinon c'est pas le émettre. Le émettre ne passe pas et n'a pas besoin du cri de l'autre pour pouvoir être défini. Lorsqu'on dit Enaï Rionim les Chachamim, la raison pour laquelle les Chachamim reproduisent la Torah telle qu'ils l'ont reçue n'en change rien et sont loyaux vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du clan d'Israël, ça n'est pas par un rapport de responsabilité. C'est pas parce que. Et comme ça, on pourrait le comprendre. En tenant au Sanhédrin, mais mon Dieu, il ne faut pas faire du mal au peuple juif. Il ne faut pas faire du mal au bon Dieu non plus. Il ne faut pas décevoir l'un, il ne faut pas décevoir l'autre. Non, ce n'est pas pour ça. Parce que la Yona, la colombe, il est évident que la fidélité qu'elle a dans le couple, ça n'est pas un rapport qui passe par le cri, le besoin, le respect ou l'amour de l'autre. C'est une notion qui est innée, c'est une notion animale. Le rapport qu'un homme a vis-à-vis du Hémet, ça doit être un rapport animal. C'est-à-dire que comme c'est ça le Hémet, il n'y a rien qui existe. Pas parce que si on ne fait pas le Hémet, voilà les conclusions, voilà les... Non. C'est pas que j'ai défini que quelque chose est vrai. Et si je ne fais pas la vérité, le monde va s'écrouler, le truc va s'éloigner, le machin... Non, pas pour ça. Parce que c'est vrai, c'est tout. Parce qu'une notion, lorsqu'elle est vraie, elle n'a pas besoin d'autres justifications... sa vérité. C'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu dit et Naïrionim, ça veut dire que les Chachamim, lorsqu'ils enseignent la Torah, lorsqu'ils reproduisent la Torah, ils ont le rapport de la Yona, de loyauté, de fidélité. La fidélité à Akadosh Baruch Hu, elle ne doit en aucun cas être sous-tendue par la responsabilité qu'on aura de la catastrophe qui résulte à la non-fidélité. Ça n'a aucun rapport. Même si tu arrives à reproduire quelque chose dont personne ne tiendrait compte, tu n'es pas dans le même. C'est pas ça, Yonim. La colombe, c'est un rapport animal, c'est un rapport qui vient du fait que sa nature est comme ça. Le rapport d'un homme vis-à-vis de la chose vraie, en aucun cas ne doit être sous-tendu par la catastrophe qui va arriver du fait qu'il ne respecte pas la vérité. Attention, ici on ne parle pas seulement de la crainte des représailles. On ne parle pas seulement de la crainte de la punition. On parle d'une idée beaucoup plus grave. c'est que les gens vous disent, pourquoi il faut faire la vérité? Parce que sinon tout s'écroule. Non. La vérité, c'est parce qu'elle est vraie. Et même s'il n'y a aucune perception de quoi que ce soit qui s'écroule, il en reste que la vérité là. Et que ce rapport que je dois avoir, et Ben Adam Lachavero, et avec Akash Baoukou, et Misotase, et Misotase, il doit passer par la vérité parce qu'elle est vraie. Pas parce que sinon j'aurai des problèmes. Ça, c'est une notion qui est très difficile à concevoir. Parce que nous savons nous travailler sous pression. Mais sans pression, on ne sait pas. C'est quoi la pression? Si je n'établis pas des rapports vrais avec les gens, eh bien on va tout casser. Je ne veux pas casser. C'est pas pour ça. C'est pour ça qu'Avraham Avinu il s'appelle Eitan. Yesh. Mais vous allez comprendre autre chose encore. Il est écrit dans la Gemara dans plusieurs endroits que le monde a été créé par la parole. Et la parole de Bereshit, c'est la lettre Hey. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah Bereshit Bara, la création. Et après, il y a marqué Hey, les toldot ha-shamayim va'aretz de Hi Baram. Au moment où ils ont été créés, lorsqu'elles ont été créées. La Gemara dit Altikra Behi Baram et la Behei Baram. Dieu a créé avec la lettre Hey. Il a dit la lettre Hey. Et c'était ça la création du monde. Nous, on ne va pas chercher tout ce qu'il y a derrière et qu'on ne comprend pas de qu'est-ce que c'est que les lettres, qu'est-ce que c'est exactement que la création. C'est des notions qui sont difficiles à comprendre. Mais une chose qu'on peut très bien comprendre, l'existence d'une chose est définie par l'article qui définit et pas par un article indéfini. Un homme et l'homme, quelle est la différence? C'est que l'homme existe et un homme peut ne pas exister. Lorsque j'emploie l'article qui définit les choses, je parle de l'homme. Ha Adam. Je ne dis pas Adam. L'homme dans son espèce, un homme, l'idée de l'homme. Je parle de Adam, l'homme lui-même. Je suis obligé de parler de quelqu'un qui existe. Behei Beraham, ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pas qu'il a créé des idées, c'est pas que il a créé une Metsiout. Une Metsiout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tient debout. Ce qu'on appelle en hébreu Yesh, vous savez qu'il y a marqué que chaque tzadik dans l'Olam Haba, dans le monde futur, il aura Shai Olamot. Shai Olamot, c'est 400 mondes. Shenema, le Anchil, le Havaï, Yesh. Il est marqué dans le verset, le Anchil, le Havaï, a donné à ceux qui m'ont aimé, Yesh, il y a. Yesh, les lettres, Shin, Yud, 400. C'est pas seulement un jeu de mots des Chachamim, 400, Yesh, Shai. On a inversé les lettres, on s'amuse. C'est que quelqu'un qui a vraiment existé, pas parce que je peux dire qu'il fait partie d'une espèce, pas parce que je peux dire que je l'ai cerné par tel et tel élément, mais il a vraiment existé en tant que lui-même, parce qu'il a acquis une valeur que personne ne peut lui enlever, c'est ce qu'on appelle Yesh, exister. C'est ça le Hey. C'est que le monde qui a été créé, c'est un monde que plus personne ne peut enlever. Pourquoi? Parce qu'il existe. Il n'est plus dépendant d'autre chose que de sa propre existence. Yesh. Maintenant, vous allez comprendre que ça veut dire la lettre Hey. Behibam, Behibam. On parle de l'article défini, pas de l'article. Dieu n'a pas créé un monde. Il n'a pas créé une possibilité. Il a créé quelque chose qui ne peut plus s'effacer. Parce qu'un homme qui s'est construit, qui existe, tu ne peux plus l'enlever. Donc, même lorsqu'il meurt, il lui reste son Olam Haba, c'est-à-dire qu'il existera toujours. Parce que Yesh, il est là. Ça, c'est ce qui est marqué, le Hanchi, le Havaï, Yesh, Shai, Olamot, 400. À partir de maintenant, si on comprend ça, vous allez comprendre une chose. Il y a une halakha. L'halakha, elle est que un guerre, lorsque quelqu'un se convertit, il est que Katan Shenolad, c'est comme un enfant qui naît. Tout le monde demande D'où vient cette halakha? Elle est marquée nulle part dans le chasse. On peut chercher, nulle part on trouve la source de cette halakha. La famille antérieure, elle n'existe plus. Les rapports antérieurs n'existent plus. Katan Shenolad, il est. D'où tu sais ça? Il y a ce qui est marqué dans les sphères. Dans les Pirkei Avot, on parle de Ben Bag Bag et Ben Heimei. Un monsieur qui s'appelait Ben Bag Bag, Bet Gimel, ça fait 5, c'était le même que Ben Heimei, Hei, c'est 5 aussi. Et là-bas, les commentateurs disent qu'en vérité, on l'appelait Ben Heimei, parce qu'il était guerre chez Neymar, et les Toldot HaShemayim il va arrêter de Hibara. C'est-à-dire quoi? C'est que la conversion, ça crée un nouveau monde. De la vie à la ra, que celui qui se convertit, il devient maintenant que Katan Shenonat, comme quelqu'un qui vient au monde. Où est-ce qu'on le sait? Parce que le guerre, on l'a appelé Ben Hei Hei. Et les forges disent pourquoi il s'appelait Ben Hei Hei? Parce que c'est un guerre. Et ça vient du Hei de Ibi Bar Am. Ça veut dire qu'il y a une existence qu'on ne peut plus jamais nier. Parce que elle s'est justifiée par elle-même. C'est de là que vient le mot Eitan. On a dit le mot Eitan, c'est le mot It, qui veut dire Yesh en araméen. Ajouter de la lettre Noun pour renforcer. C'est-à-dire indestructible, Yesh qui existera toujours. C'est ce qu'on appelle Eitan Ezrahi. Avraham Avinu, c'est le premier. Il est, tu ne peux plus enlever. Tous les peuples peuvent lutter contre l'idée du monothéisme. On peut lutter contre les idées de la Torah, mais tu ne pourras jamais les enlever. Il n'y a personne qui peut, au monde, ne pas se nourrir de cette idée-là. Ça y est, c'est terminé. Yesh. C'est en ça que les pères s'appellent Avot. C'est pour ça qu'on appelle le mois de Tishri, qui est le mois de la création de l'homme. Puisque Adam HaRishon, il est né Rosh Hashanah. Et on appelle ce mois-là Yerach Haetanim. C'est le mois Eitan, où les choses, elles existent, elles sont vraies. Cette notion-là, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose de défini, on n'a pas créé des potentialités, on n'a pas créé des idées, on n'a pas créé de... que tout ça, ça peut s'enlever. On a créé quelque chose qui existe et qui existera toujours, qu'on ne peut plus enlever. Un homme, il est indestructible. Cette idée-là de Behebraham, que c'est ça la notion de la création, c'est que ça commence, mais ça ne s'arrête plus. C'est une notion difficile à comprendre. Parce que sachez que l'infini qui a un commencement, c'est une notion difficile à comprendre. Donc on est obligé de dire que s'il y a un infini dans une extrémité, il n'y a même plus de commencement non plus. Ça, lorsqu'on dit Behibaram, c'est comme si ça avait toujours existé. Donc ça restreint la notion de création aussi. Ça, il faut savoir qu'il est difficile de comprendre la notion d'infini pour nous. Mais une chose qui n'a pas de limite dans la fin, elle n'a plus de début non plus. Hein? Ça a l'air. Mais réfléchissez, vous allez voir que c'est vrai. Si vous lancez une droite et qu'elle n'a pas de limite, elle n'a plus de début non plus. Parce que si elle a un début, ça veut dire que vous arrivez à la déterminer, mais elle est infinie. Alors j'ai l'infini d'un côté, il n'est pas infini de l'autre. C'est une notion qui est incompréhensible. Donc c'est pas évident comme notion. Il en reste que, ça c'est le pshat ici. Lorsqu'il y a marqué Enayir Yonim, ça veut dire que la fidélité par rapport au Emet, elle peut être le produit d'une avoda, d'un travail, qui vient ou de la Hava, ou de la Ira, ou de tel rapport, Beladam la Chavero, ou du rapport Beladam la Makom, ça peut être le fruit de plein de choses. Mais elle doit exister en tant que nature, dans un rapport qui est vrai, parce que c'est le Emet, pas plus. La Emouna, elle n'est pas sous-tendue par le fait d'un jour recevoir un salaire, le fait d'avoir peur de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a donc défini que la Emouna, c'est au moment où on ne comprend plus. Au moment où on ne comprend plus, on ne pense plus au salaire. on pense plus à la récompense puisqu'on comprend pas. À ce moment-là, ça sert à rien de dire à quelqu'un, si tu crois pas, tu auras une punition. Mais puisque je crois pas, j'aurai pas de punition non plus. Ça veut dire que on ne peut pas sous-tendre la émouna qui est le vrai rapport au émet. On ne peut pas le sous-tendre d'aucun côté par une notion ni de ahava, ni une notion de yira. Vous comprenez? Tu fais pas une tova au bon Dieu parce que tu crois en lui. Parce que si je crois pas en lui, ben il n'y a personne qui a besoin de tova non plus. Et je risque rien non plus. Le rapport des Chachamim avec la Torah, c'est un rapport de émet, c'est pas un rapport de responsabilité. Il n'y a personne qui se sent investi d'une responsabilité, d'une mission dans le peuple juif, c'est à lui de transmettre la Torah. Ou tu as un rapport avec le émet et la Torah elle se transmet, ou tu n'as pas de rapport avec le émet. Mais si c'est une notion de responsabilité, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé d'autres responsabilités plus intéressantes et plus payantes, et que ce rapport il n'existerait plus. Donc lorsqu'il y a marqué dans le pasuk, il y a marqué dans le verset, « Inach yafar e'ati » Einaïr, Yonim, ça veut dire, Einaïr, ceux qui te conduisent, ça veut dire, le fait que le judaïsme ait une pérennité par la transmission par les Chachamim, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que le rapport, ça n'est pas un rapport qui est celui qui sous-tend la mitzvah. Parce que quelqu'un, lorsqu'il a un rapport avec la Torah, c'est pas parce que c'est une mitzvah. Il doit avoir dépassé cette notion depuis longtemps. Parce que si c'est une mitzvah, il a des limites, alors que le maître, il n'a pas de limites. Et c'est ça qui sous-tend le rapport entre le Chacham et la Torah. C'est la notion de émet, c'est pas la notion de mitzvah du tout. La dernière chose qu'il reste à définir, c'est la notion de raïati. Pourquoi le peuple juif s'appelle raïati? Normalement, on comprend que réa veut dire un morceau, une coupure, une brisure. Teroua, c'est une voie qui est brisée. Teroem be shevet barzel, il y a marqué dans le verset. Cassé. Si on réfléchit vraiment, l'homme, lorsque les Chachamim disent que c'est une étincelle de la volonté divine, c'est-à-dire que lui-même est une cassure ou une brisure de l'existence de Dieu lui-même. Et en cela, il s'appelle Réa, ça veut dire alter. Il a un rapport qui est celui de la brisure par rapport à l'autre côté de la brisure. De même qu'il existe ce rapport entre un homme et un homme, il existe le même rapport entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que qu'on passe, on a dit on peut passer d'un côté, on peut passer de l'autre côté. Mais il en reste que le vrai Réara, c'est le bon Dieu. L'autre côté, on a cassé quelque chose en trois morceaux. Alors c'est vrai que chaque morceau, c'est un morceau d'un tout. Alors je comprends que l'autre et moi, on est chacun des morceaux d'un tout. Et puisqu'on est morceau d'un tout, alors avec le tout, c'est sûr qu'on a un rapport de morceau avec le tout aussi. De là vient cette notion que le peuple juif, il s'appelle Réa, la Kadosh Baruch Hu, Ra'ayati, la compagne. Il s'appelle la compagne, pourquoi? Parce que le Klal Israël, il a cette idée-là qui est, c'est que l'homme, c'est le produit d'une volonté divine. Donc pour nous, c'est une partie de l'existence même d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Puisque nous ne définissons pas l'existence d'Akadosh Baruch Hu en dehors de l'existence de sa volonté. C'est-à-dire que nous, on ne définit pas qui c'est le bon Dieu. Ni au physique, ni au mental, ni à l'intellectuel, ni à tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on peut définir, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, puisque lui, c'est ce qu'il veut, alors moi, je suis une partie de ce qu'il veut. Alors mon rapport avec lui, c'est le rapport de Réara aussi. C'est pour ça que Rashi dit dans Shabbat, lorsque Hillel a dit à celui qui se convertir, qui voulait se convertir, ne fais pas à l'autre, il pensait à Dieu. Il savait que l'autre penserait à l'homme, et il voulait l'amener à penser à l'idée de Dieu. C'est en ça qu'il a dit que c'est la quintessence de la Torah. Comprenez? Ça c'est le pshat de Rashi là-bas. C'est-à-dire que c'est pas un pshat stam, tu sais, on pense à ça. C'est que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Lorsqu'on dit le Réara, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, tu es obligé de penser tout de suite autre. Autre, de même l'idée de Dieu s'impose, comme l'idée de l'autre s'impose en tant qu'homme. Et celui qui penserait à l'un sans l'autre, il n'a pas du tout l'idée de la Torah. Parce que dans l'idée de la Torah, l'un doit amener à l'autre. C'est ce qu'il a voulu dire au guerre. Tu veux savoir ce que c'est la Torah? Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah, tu vas te demander qui c'est l'autre. C'est justement la question qu'on veut que tu te poses et que tu arrives à comprendre que si l'autre a les mêmes droits que toi, c'est qu'il y a un autre autre et cet autre-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, tu as fait tout le tour de la Torah. Chag Sameach. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas.
Le prochain cours.
Le prochain cours dans 15 jours.
Vous disiez que la femme se référait au Emet.
Je ne dis pas qu'il se réfère au Emet. Je dis que l'attitude de la transmission, c'est une attitude de Emet, pas une attitude de mitzvah.
Non.
Attention, c'est pas seulement qu'il se réfère au Emet. C'est que la transmission de la Torah, la fidélité qu'on a par rapport à la Torah, c'est pas une fidélité de mitzvah, parce que c'est mitzvah, parce que c'est l'intérêt du peuple juif, parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est le rapport au Emet qui est un rapport de fidélité. Ça, c'est autre chose. Nous, on parle de la façon dont on aborde la chose. Maintenant, on peut avoir différentes façons d'aborder. Ça veut dire qu'il peut y avoir différents émettes. C'est marqué dans le Midrash au commencement de la création que le émet a dit qu'il ne faut pas créer l'homme. Alors, il y a marqué à Kadosh Baruch Hu, il a jeté le émet par terre. Chez Neymar, émet meret zitzma. La vérité, elle va venir de la terre. Ça veut dire, que la vérité de l'homme, elle est multiple. Il n'y a que la vérité d'Akadosh Baruch Hu qui est une. Mais nous, c'est une vérité de perception. Donc elle est multiple. Et c'est quand même la vérité. C'est ça qu'il a jeté par terre. C'est-à-dire que ça vient de l'homme, ça ne vient plus de Dieu. C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec la Torah, c'est de ma compréhension, pas qu'est-ce que Dieu pense de la Torah. Moi, je veux savoir quel est le message qui est délivré dans la Torah. Ce que Dieu pense, ça ne m'intéresse pas. Ça qu'on a dit qu'à la limite, si j'avais un conflit avec le bon Dieu, c'est moi qui ai raison. Parce qu'une fois qu'il a jeté la vérité par terre, c'est à moi de définir ce qui m'intéresse. C'est plus au bon Dieu. Donc si lui-même me disait tu te trompes, et moi ce que j'ai voulu dire c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai prouvé que, d'après le texte, c'est ça ce que ça veut dire, eh bien, c'est le Emet. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer et de la bat kol.
Dans ma chambre. Vous rattachez la fonte kabod à la Yira.
C'est une notion de restriction. Tu le respectes, ne lui fais pas des choses que tu ne veux pas.
Les deux versets, on parle du rapport de l'enfant de David des parents. Il avait la vérité.
C'est autre chose.
Et il se retire à vous.